Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la loi immigration. À l'ordre du jour ce soir, qui endosse la responsabilité de la loi immigration? Le Conseil constitutionnel vient de rendre son avis sur la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Son nom, il censure partiellement ou totalement 32 articles comme cavaliers législatifs, c'était des articles ajoutés au texte de loi initial et qui n'ont a priori pas leur place dans ce texte, ainsi que 3 autres articles. Cette large censure satisfait pourtant le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui considère que le Conseil a validé, je cite, l'intégralité du texte initial du gouvernement, tandis que le président des LR, Éric Ciotti, demande au gouvernement de reprendre les 32 articles censurés, comme le rétablissement de délits de séjour irrégulier, la caution au retour pour les étudiants étrangers ou encore les mesures restrictives du regroupement familial, dans un nouveau texte législatif spécifique pour qu'il soit voté par ses assemblées. Nous sommes en compagnie de 3 invités. Jacques Toubon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été député à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, maire du 13e arrondissement de Paris, ministre de la Culture, puis garde des Sceaux, et vous avez présidé ensuite le Conseil d'orientation de la Cité nationale d'histoire de l'immigration et était défenseur des droits de 2014 à 2020. Avec nous en studio également, Véronique Champaille-Desplat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en droit public à l'Université Paris-Nanterre et vous avez notamment dirigé avec Jean-Marie Danquin « Démocratie et constitutionnalisme, retour critique » chez Mare et Martin en 2019. Enfin, 3e invité à distance, Ludovic Mendès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Renaissance de la Moselle et rapporteur de la loi immigration.
Plus de 70% des Français, y compris des électeurs de gauche, soutiennent les mesures très fortes que le Sénat a adoptées. La France souffre d'une fragmentation archipélagique, pour m'exprimer comme Jérôme Fourquet. Et là, on a curieusement une sorte de consensus national en disant qu'il faut contrôler l'immigration. On ne la contrôle plus. Et c'est normal. Il y a un territoire national, il y a un droit, il y a une constitution, il y a des règles qu'il faut respecter. C'est tout. Donc le Conseil constitutionnel, s'il venait à défaire très largement notre texte, il enlèverait toute possibilité au Parlement, en réalité, de reprendre le contrôle des flux migratoires.
C'était ce matin sur France Inter, Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, président du groupe des Républicains au Sénat, qui menaçait justement d'une censure possible de ce texte. On a vu, il a été censuré assez largement, ce texte. Est-ce qu'on est loin, dans votre livre, Jacques Toubon, qui s'intitule « Je dois vous dire » chez Stock, l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, vous disiez en fait qu'il y avait une difficulté, c'est que ce débat sur l'immigration était un instrument de manipulation politique et partisane, et vous aviez écrit en 1984 un livre qui s'appelait « Pour en finir avec la peur ». Est-ce qu'on est encore dans ce régime-là?
Oui, c'est clair que l'immigration est un sujet qui est utilisé comme un emblème politique. C'est-à-dire que on proclame un renforcement de la lutte contre l'immigration. Au contraire, on proclame une volonté d'accueillir davantage les migrants, etc. Et tout ça se traduit par une kyrielle de textes qui s'ajoutent les uns aux autres, 20 ou 30 depuis quelques années. Et le sujet, en réalité, si j'ose dire, j'arrive à la conclusion de ce débat au début, le sujet n'est pas traité à travers ces dispositions. Législatives, dont certaines d'ailleurs pourraient être parfaitement réglementaires et ne valent pas l'honneur de la loi. On traduit un certain sens politique. Ici, il est clair que l'idée était de proposer, au nom de ce gouvernement et de cette majorité, une forme de renforcement de la politique d'immigration et donc du contrôle des frontières et ce que le Conseil constitutionnel finalement vient de dire, on n'a eu que quelques quarts d'heure pour regarder la décision.
C'est ça.
Mais le sens global, c'est le Conseil constitutionnel a dit non à ce durcissement. Il a dit non, vous pouvez pas faire ça parce qu'il y a un certain nombre de dispositions constitutionnelles fondamentales qui s'y opposent.
Et qu'est-ce que vous en dites, vous qui avez été le rapporteur de cette loi immigration, Ludovic Mendès, justement, de qui peut assumer, qui peut donc avoir la responsabilité de cette loi, puisque on a l'impression qu'on avait transféré au Conseil constitutionnel, et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit son président Laurent Fabius il y a quelques jours, la responsabilité de dire quelque chose de différent de ce qui avait été visiblement voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, qu'est-ce que vous en dites vous-même?
Disons que c'est, il y a des victoires et des torts partagés. Le texte de départ du gouvernement qui paraissait totalement équilibré et qui correspondait aux attentes des Français, selon les différents sondages qu'il y a pu avoir l'année dernière, montrait que c'est ce qu'ils attendaient, la fermeté d'un côté, et en même temps, un meilleur accompagnement à l'intégration, parce qu'on peut démontrer que, à force de laisser des personnes dans la paupérisation, on fabrique aussi de la délinquance. Donc l'idée, c'était de mieux accompagner à la formation professionnelle, à la langue française, et de mieux prendre en charge les personnes qui arrivent sur le territoire national. Après, ce qu'il s'est passé, c'est que malheureusement, on est en majorité relative. Le Sénat, qui a eu le texte en premier, a voulu apporter des choses complémentaires qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, pas sur le fond, pas sur un regard politique, ni sur un regard des juges, tout simplement parce qu'on ne respecte pas la Constitution, parce qu'ils ont apporté des cavaliers législatifs qui n'avaient rien à voir avec le texte de départ. Et ensuite, a été censuré des choses qui, sur le fond, créent une inégalité de traitement, créent des problématiques d'accueil, et ne laissent plus nos valeurs de liberté, d'égalité, fraternité dominer notre texte de loi. Donc on a cette réalité que nous avons vécue. En plus, on n'a pas eu de chance, c'est qu'en commission des lois, nous avions fait en sorte de nettoyer, comme on dit, ce texte, en retirant une partie de ce qu'on considérait comme cavalier législatif et inconstitutionnel. Et nous avons été interdits de débat parce que toutes les oppositions se sont réunies pour faire en sorte d'avoir un rejet préalable de ce texte, et qui fait que nous avons dû discuter en commission mixte paritaire avec le Sénat, avec un texte qui ne ressemblait plus à ce qui était prévu. Et oui, nous avons assumé d'aller jusqu'au bout de la démarche parce qu'il nous fallait un texte rapidement pour donner des moyens complémentaires au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice et au ministère du Travail, et que les préfets sur les territoires puissent agir.
Mais néanmoins, il vous satisfait ce texte tel qu'il sort du Conseil constitutionnel, Ludovic Mendès, ou pas?
Il satisfait un peu plus que ce qui est sorti de la commission mixte paritaire, étant donné que ce qu'on avait prévu de retirer a été censuré par le Conseil constitutionnel. Après, il y a des choses qui auraient pu être encore améliorées. On aurait pu ajouter des choses en séance publique. Malheureusement, on nous a interdit ce débat, donc on n'a pas pu le faire. Donc, il nous satisfait parce que le texte du gouvernement est resté tel quel et il est toujours présent et il n'a pas été censuré. Après, ce qui a été ajouté et qui était des lignes rouges pour la majorité, et c'est le temps, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ça de mon côté, malheureusement, pour ceux qui les ont proposés, ont été retirés. Et c'était, je pense, une tactique aussi volontaire d'une part des Républicains de se dire on va aller jusqu'au bout de la démarche, on ne laisse pas le choix au gouvernement et à la majorité. Ils vont être retoqués par le Conseil constitutionnel et nous, on pourra continuer à crier, à aller sur les plateaux télé pour pleurnicher en expliquant qu'on a besoin de changer la Constitution.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui se dit, puisque j'ai sous les yeux la dépêche de Marine Le Pen qui estime que seule une réforme de la Constitution permettra de répondre désormais aux enjeux. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste de droit public, Véronique Champaille-Desplein, de ce texte qui sort du Conseil constitutionnel et qu'on vient de connaître, comme le disait tout à l'heure Jacques Toubon, il y a quelques quarts d'heure?
Alors, pour réagir à ce qui vient d'être dit, précisément, la décision du Conseil constitutionnel n'implique pas une révision de la Constitution, puisque sur la majorité des articles qui ont été censurés, puisqu'ils l'ont été sur le fait qu'ils étaient des cavaliers législatifs. Donc, le Conseil constitutionnel prend bien le soin de préciser à chacun...
Est-ce que vous pouvez? Je pense que... Oui. Il y a beaucoup d'auditeurs, même sur France Culture.
Il est formidable parce qu'il fait mon travail. Vous avez raison. Vous avez raison.
Un cavalier législatif.
Dites bien la définition. Je crois.
Oui,
je crois. Très bien. Je me permets.
Je vous en prie, Monsieur le Ministre, Monsieur le Défenseur des droits. Alors, un cavalier législatif, c'est quelque chose. Finalement, c'est un mot technique, une métaphore pour désigner des dispositions législatives qui ont été ajoutées au cours du débat parlementaire, alors qu'elles n'ont pas de rapport
direct.
même indirect, nous dit le Conseil constitutionnel, avec le projet initial.
Avec le texte initial.
Ici, pour que ce soit clair pour les auditeurs, nous avons une loi sur l'immigration dont l'objet principal est de réformer certains articles, de réviser certains articles du code du CESEDA, du code sur les étrangers et sur le droit d'asile. Et précisément, il y avait des articles qui avaient pour objet de modifier des articles d'autres codes. Par exemple, pour celui que je connais le mieux en tant qu'enseignante-chercheur, celui pour les étudiants, le code de l'éducation nationale. Et donc, voilà, on a deux objets ici différents.
Mais est-ce que le risque, je viens tout de suite d'une question importante et auquel vous pourrez répondre tous les trois, j'imagine, est-ce que le risque, ça n'est pas justement que, voyant que le Conseil constitutionnel censure une partie de ce texte, eh bien, une partie de l'opposition, voire peut-être une partie de la majorité, mais aille se dire que désormais il faut changer la Constitution et pourquoi pas constitutionnaliser les questions d'immigration, puisque ça fait partie des discours que l'on a entendus depuis un certain temps, Véronique Champeil-Desplats.
Alors, c'est ce que j'étais en train de dire avant d'avoir expliqué les cavaliers, c'est que précisément parce qu'il s'agit d'une censure qui sont fondées pour les 9/10 sur des cavaliers, il n'y a pas besoin pour le moment de mettre sur le débat le changement de la Constitution, puisque, comme je le disais, donc le Conseil constitutionnel prend bien le soin de dire que cela ne présage pas de la constitutionnalité ou non
du fond.
Donc pour le moment, je dirais que la révision n'est pas, d'un point de vue du droit constitutionnel,
On sait néanmoins, et vous en êtes un grand artiste, Jacques Toubon, que la vie politique ne se fait pas simplement sur le droit, et qu'il peut toujours y avoir des discours qui se lancent autour de cette question-là, en disant République des juges, insupportable que le politique ne décide pas et que l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont les représentants de notre pays, eh bien, n'est pas le dernier mot.
Je crois que, d'abord, je voudrais reprendre ce qu'a dit M. Mendès et qui était tout à fait juste, c'est que ce texte, dont l'origine se trouve dans l'été 2022, c'est-à-dire donc il y a déjà beaucoup, beaucoup de temps, qui a été déposé début 2023, a eu un parcours chaotique. Et que le résultat des courses, si j'ose dire, est quand même assez lié au fait que, comme l'a expliqué M. Mendès, motion de rejet, etc. Tout ça. Premier point, je veux le dire parce que la loi, d'une certaine façon, elle ne peut être bien faite que lorsque sont respectées un certain nombre de formes qui sont prévues par la Constitution, par les lois organiques, et qui donnent au processus législatif à la fois sa force, son indépendance, sa qualité. Et encore une fois, je parle devant le rapporteur de ce texte et je parle par expérience. Ça, c'est une première observation. Mais sur le fond de ce que vous avez dit, en fait, on voit quoi ? On fait jouer, et là, on a la question de la responsabilité, on fait jouer au Conseil constitutionnel un rôle de troisième assemblée parlementaire de fait, en adoptant des dispositions dont ceux et celles qui les votent sont largement conscients qu'elles ne pourront échapper à la censure constitutionnelle. C'est exactement, et naturellement, ce que je dis là, arranger le gouvernement, bien entendu. Et qu'il y a donc
un jeu commun
entre les parlementaires qui ont adopté ces dispositions et le gouvernement, qui finalement se trouve bien content d'être allé au bout du processus, d'avoir trouvé une majorité pour voter, majorité comprenant, je le rappelle,
les voix du
élus du Front National. Et ensuite, de voir le Conseil constitutionnel dire « Ah non, là, on a quand même franchi les lignes rouges, stop !» Alors, il ne l'a pas dit sur le fond, mais il le dit en utilisant cette procédure.
Au moins sur la forme.
Il les a fait sauter.
Ludovic Mendès, qu'est-ce que vous répondez à Jacques Toubon et à Véronique Champaille-Desplats, justement, sur cette question de responsabilité? C'est sur la question des suites, on va y venir ensuite, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir d'autres suites à cette censure partielle du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est-à-dire que tout compte fait, le gouvernement, eh bien, ça l'arrange bien, et on entend Gérald Darmanin qui dit, eh bien, voilà, l'ensemble du texte tel que nous l'avons présenté, ou presque, a été validé par le Conseil constitutionnel. Ce qui ne l'a pas été, ce sont les cavaliers législatifs qui avaient été déposés par l'opposition.
Disons que, globalement, au début de mon propos, je disais que c'est pas que ça nous arrangeait, c'est que nous avions prévenu. Nous avons essayé de trouver un chemin qui nous permettait de trouver un accord et une entente, et malheureusement avec des personnes en face qui refusaient de le faire. Et nous, on était parti du principe qu'une fois que ce texte avait enfin été déposé, avait enfin été analysé, étudié, discuté, modifié, il était temps de le terminer, de pouvoir l'enregistrer pour qu'il puisse être promulgué. Donc oui, on a été contraint aussi de notre côté, donc on s'est servi de tous les moyens qui étaient à notre disposition, les différentes commissions, parce qu'il n'y a pas que la commission des lois qui s'est penchée sur le sujet. On a essayé d'avoir un débat en séance publique, malheureusement, avec un refus de toute l'opposition, hormis Liotte, qui normalement est dans l'opposition, mais qui avait accepté d'être dans la majorité sur ce texte-là, surtout pour les Outre-mer. Donc ça démontre bien qu'en fait, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de trouver un accord raisonnable avec une partie des représentants des Républicains, que ce soit Éric Ciotti, Bruno Retailleau ou Olivier Marleix. Et à chaque fois, on a eu une fin de non-recevoir. Peut-être qu'on peut remettre en question le fait que ça n'a pas été négocié au bon endroit et que les parlementaires auraient dû le faire entre eux, par exemple. Il y a plein de choses et je crois qu'on doit accepter aussi nos erreurs, parce qu'il y en a eu. Mais quand on est bloqué à ce moment-là, on doit trouver une solution. On était attendu. Si jamais on n'avait pas pu aller au bout de ce texte, qu'est-ce qu'on aurait dit du gouvernement et des parlementaires de la majorité? C'est qu'ils sont incapables de trouver des solutions. Donc on a accepté de rentrer dans ce jeu qui nous a été imposé en informant dès le premier jour que nous ne pourrions pas laisser tel quel le texte parce que beaucoup de choses nous paraissaient pas adaptées à la Constitution française ou aller à l'encontre de la Constitution française. Nous l'avons dit, ils en ont pris acte, ils ont voulu aller au bout de la démarche et nous avons dû accepter ce jeu politique pour apporter des réponses aux Français, parce qu'il y a des demandes, malheureusement, qui sont parfois basées sur des erreurs, sur des chiffres lancés à tout va qui ne veulent rien dire, par des discours politiques de plus en plus radicalisés, et certains médias qui en jouent. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'une OQTF en France, donc une obligation de quitter le territoire français, c'est assez compliqué dans le sens où personne ne comprend réellement ce que c'est qu'une OQTF, combien de types d'OQTF différentes il existe dans notre pays et quels sont les différents cas dans lesquels on peut les remettre. Pareil sur les titres de séjour. On ne sait pas qu'il y a plus de 190 titres de séjour différents pour venir sur le territoire national. En fait, on a fait d'un débat ultra technique, celui du CESEDA, un débat ultra politique, sauf que personne, in fine, ne comprend vraiment ce qu'il y a au fond de ce texte.
En même temps, vous pouvez pas dire que ce sont les autres qui l'ont fait, parce que c'était un débat politique dès l'origine, tout de même.
C'est pas ce que je dis. Je dis que nous n'avons pris notre part de responsabilité. Et après, on a des Français qui nous le demandent aussi. Et il y a des territoires qui sont en véritable souffrance. Et puis, il fallait qu'on aille dans le sens aussi de ce que nous proposions et nous demandions à l'Union européenne. Donc, on a aussi préparé cette transition avec les directives et les règlements européens qui permettent d'apporter des réponses complémentaires.
Très brièvement, Jacques Toubon, vous voulez réagir. Je vais donner la parole à Véronique Champaille.
Ce que dit M. Mendès démontre qu'on aurait pu ne pas faire passer ces dispositions pour avoir une majorité, pour avoir un vote. On aurait pu arrêter la discussion du texte et reprendre sur d'autres bases un vrai projet de loi, ce sera, en étudiant au fond les questions, plutôt que de se retrouver dans cette situation, encore une fois, où on a envoyé au Conseil constitutionnel de quoi annuler la partie de la loi qui ne convenait pas.
Véronique Champaille-Desplats, sur ces questions.
Oui, alors, c'est exactement la réaction que je voulais avoir, c'est-à-dire que le débat législatif peut durer un peu plus longtemps que celui qu'il avait pris là pour ce débat. Je pense que il y a un certain nombre de dispositions pour lesquelles le Parlement aurait pu discuter plus longtemps. Et pour revenir justement à la première question, qui endosse la responsabilité? Et finalement, je me retrouve en accord aussi avec ce qu'a dit M. Mendès, c'est que la responsabilité, effectivement, c'est au gouvernement. La responsabilité d'un texte, d'un point de vue droit constitutionnel, c'est celui qui le propose. Il y a un ordre du jour, un temps du débat parlementaire dont les assemblées et la majorité sont relativement maîtres. Je pense que effectivement un temps d'explication, de débat aurait été au moins possible, et ça en essayant de me prononcer le moins ici sur le fond, mais encore une fois sur la procédure, je ne suis pas certaine qu'il fallait aller si 8.
Oui, et quand on entend Jordan Bardella, président du Rassemblement National, parler d'un coup de force des juges, qu'est-ce que cela vous dit en tant que justement spécialiste de droit public et de constitution ?
Alors, là aussi, je vais réagir au fameux mot de troisième chambre qui a été prononcé, et ça me permettra de répondre aussi à cette question-là. Une chose qui est importante, c'est que on pourrait dire que toute l'histoire du Conseil constitutionnel, ça a été de gagner en légitimité en essayant de faire en sorte qu'il ne soit pas cette troisième chambre.
Et on a souvent dit qu'il avait fait des sortes de coups de force, effectivement, pour pouvoir prendre encore un peu plus de pouvoir à certains moments.
Ah oui, exactement. Mais depuis une vingtaine d'années, on sent bien que un des mots d'ordre du Conseil constitutionnel, c'est de dire qu'il ne détient pas une même marge d'appréciation que celui du Parlement. Alors, on peut de temps en temps ne pas être lu parce qu'il y a des interprétations, mais c'est une ligne, c'est vraiment une ligne de conduite. Donc ici, c'est aussi aller à l'encontre de cette ligne de conduite-là que de vouloir faire du Conseil constitutionnel un arbitre un arbitre politique.
Une troisième mi-temps parlementaire.
Une troisième mi-temps parlementaire.
On ne peut pas avoir un et l'autre. On ne peut pas lui reprocher et le lui demander.
Exactement, exactement. Et c'est pourquoi, en fait, je trouve que cette décision, elle est tout à fait dans la ligne que le Conseil constitutionnel essaie de se donner, puisque c'est finalement une réponse technique qui va tout à fait dans la ligne de sa jurisprudence habituelle.
J'invite les auditeurs à, s'ils le peuvent, se renvoyer à une décision de constitutionnel très ancienne, puisqu'elle a 30 ans, du 19 août 1993, où le Conseil constitutionnel a défini ce que j'appellerais le statut constitutionnel de l'étranger, et ce que nous avons dans la décision dont nous parlons reprend naturellement tout à fait. Quand le
vous voulez dire qu'il y a une logique constitutionnelle.
Quand le Conseil se prononce sur le fond, quand il ne fait pas le cavalier. Je crois qu'il faut être très méfiant à l'égard de cette idée que le constitutionnel est envahissant et tout ça. Pas du tout. On fait appel à lui.
Ludovic Mendès, monsieur le député.
Je voudrais juste me permettre une petite remarque. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a ce débat aujourd'hui parce qu'on reproche au président de la République, au gouvernement et aux parlementaires de la majorité d'avoir laissé faire et de dire que on comptait sur le Conseil constitutionnel pour savoir si ça avait été dans le bon sens ou pas. Sauf que sur la loi des retraites, toutes les oppositions ont demandé à ce que ce soit le Conseil constitutionnel qui prenne la décision finale parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait être censurés. Ça a été la même chose pendant la crise sanitaire. Moi qui suis membre de la commission des lois, à chaque texte de loi que nous avons voté pendant la crise sanitaire, on attendait sur le Conseil constitutionnel. Donc, comme si, en fait, il y avait un deux poids, deux mesures sur le sujet, ça peut servir aux oppositions sans problème, mais ça ne peut pas servir à la majorité. Quand on est contraint, et c'est malheureusement ce que nous vivons aujourd'hui politiquement dans notre pays, avec des oppositions qui ne veulent plus avancer parfois sur certaines thématiques parce qu'ils veulent se faire entendre, qu'ils ont, comme nous, des engagements envers leurs élus, envers leurs militants, et qu'ils préparent les élections futures, nous obligent dans cette situation-là. C'est pour ça que moi, à titre personnel, j'espère que les responsables politiques de tous bords, de la majorité comme de l'opposition, finiront par prendre vraiment leurs responsabilités, parce qu'on a une nation qui aujourd'hui ne croit plus dans la force politique à cause de tous ces sujets dont nous parlons beaucoup trop parfois, et qui remettent en question l'ensemble de nos administrations, de nos pouvoirs politiques, de nos pouvoirs juridiques, comme les personnes qui se permettent parfois de contester sur les plateaux télé des décisions prises par des juges au nom du peuple français. Et tout ça, ça ne nous aide pas. Et donc, c'est vrai que quand on nous parle de la République des juges, je suis désolé, mais ça met en danger notre République et la nation. Et il faut qu'on fasse aussi attention à tout cela. Et c'est pour ça que je rappelle le contexte dans lequel on a eu ce projet de loi. Je rappelle qu'on a une part de responsabilité. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître, parce que je crois que parfois on fait des erreurs quand on ne reconnaît pas nos propres erreurs. Mais vu le contexte que nous avons vécu, nous n'avions pas vraiment le choix que de nous retrouver dans cette situation-là. Si on a, en face de nous, nous avions eu des personnes qui avaient voulu faire un pas vers nous, qui avaient accepté de dialoguer, de dire bah, « là, ça nous va, là, ça nous va pas, là, c'est une ligne rouge, là, on est prêt à avancer vers vous », on aurait pu trouver une solution. Mais ce n'a pas été le cas. Et donc, on a été obligés de nous servir de tous les moyens que nous avions à notre disposition pour apporter une réponse à la nation.
18h45 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat. Nous posons cette question, qui endossera la responsabilité de la loi immigration ? Nous sommes en compagnie du rapporteur de la loi immigration, Ludovic Mendès, député Renaissance de la Moselle, de Jacques Toubon, ancien député et ancien défenseur des droits, ainsi que président à l'époque de Conseil d'orientation de la Cité nationale d'histoire de l'immigration, et de Véronique Champagne-Desplat, qui est professeure en droit public à l'Université de Paris-Nanterre. Je voulais vous demander, est-ce que l'histoire est terminée, Véronique Champagne-Desplat, avec cette décision du Conseil constitutionnel d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il peut y avoir une suite à cette histoire?
Alors, il peut y avoir, heureusement, une suite à cette histoire, sinon...
Non, mais pas simplement la demande de LR de refaire une loi spécifique pour les 32 articles censurés, mais il y a une autre suite possible?
Oui, alors, donc le Conseil constitutionnel n'a pas examiné l'ensemble des dispositions de la loi, mais seulement celles qui étaient contestées. Et donc, il reste, sans être forte en mathématiques là comme ça, mais je crois une quarantaine d'articles qui pourraient donc faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la contestation au cours de jugements par les justiciables.
C'est-à-dire que chacun d'entre nous pourrait se porter devant le Conseil constitutionnel en arguant justement de cette question prioritaire de constitutionnalité, et à partir de là, le Conseil pourrait statuer sur le reste du texte qui n'a pas été censuré aujourd'hui, c'est cela ?
Oui, alors chacun d'entre nous... ou plutôt toute personne qui fait l'objet d'une mesure d'application de la loi qu'il veut contester.
Ou
qui est dans une instance judiciaire, ou une association qui contesterait un décret d'application et par cet intermédiaire-là, contesterait la disposition législative qui la fonde. Alors, on m'a soufflé notamment qu'il y a des dispositions sur Mayotte qui n'ont pas été examinées. Et là, il est très vraisemblable donnera matière à QPC. Comment dire, question prioritaire de constitutionnalité.
Ludovic Mendès, qu'est-ce que vous pensez de cela, justement, puisque il y a cette possibilité. Alors, je vois que le président de la République demande à Gérald Darmanin d'appliquer la loi le plus rapidement possible, dans les meilleurs délais. Mais néanmoins, il y a toujours cette épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de ce texte de loi.
Je ne parlerai pas d'épée de Damoclès, mais surtout toute thématique aujourd'hui, quand on peut être bloqué ou qu'on a la sensation que ça n'a pas de rapport avec la Constitution ou que ça va à l'encontre de la Constitution, on peut poser une question prioritaire de constitutionnalité. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats. On a vu, par exemple, la loi de 2016 sur la prostitution passer en QPC pour savoir si elle était adaptée à la Constitution. Donc, on peut travailler sur tous les sujets. Donc, même si une loi a été votée il y a 10, 15 ou 20 ans, on peut encore poser une QPC. Là, dans l'idée, c'est de pouvoir promulguer cette loi le plus rapidement possible, de pouvoir l'appliquer, et dans l'application de cette loi, si des associations, des structures, des citoyens pensent que ça va à l'encontre de leurs droits, peuvent poser cette QPC. Il y a un débat d'ailleurs sur la place des mineurs non accompagnés au sein de l'ASE, étant donné qu'il est possible qu'on leur enlève certains droits. Donc on sait qu'il y a des structures qui vont déjà préparer des QPC potentiels sur ces sujets-là. Après, sur Mayotte, il y a des spécificités mahoraises et il faut qu'on puisse aussi y répondre. Et c'est pour ça qu'il y a un droit différencié. Par exemple, à Mayotte, même en Guyane, et moi qui suis mosellan, on a aussi un droit différent en Alsace-Moselle suite à l'histoire que connaît l'Alsace-Moselle. Donc, tout ça pousse à des QPC parce que certaines personnes veulent leur mettre en question, veulent savoir si l'État est dans son bon droit, si la Constitution est respectée, si chacun a sa place dans la société avec ces lois-là. Mais en l'État, je crois que la réponse que nous avons eue du Conseil constitutionnel est quand même déjà bien fournie. Il y a toujours des risques potentiels, oui, mais nous pensons que globalement, sur les articles qui ont été écrits et proposés dès le départ par le gouvernement, le risque est infime étant donné qu'on a un retour et une étude d'impact du Conseil d'État et qui nous dit que oui, on était dans les bonnes démarches. Maintenant, il y a d'autres articles qui ont été ajoutés par les parlementaires qui, eux, ne sont pas en cavalier législatif mais qui peuvent avoir un impact négatif et qui peuvent être inconstitutionnels ou à l'encontre de la Constitution.
Et cela, évidemment, ça prend un certain temps. Vous disiez à propos des mineurs non accompagnés, Jacques Toubon, effectivement, que ça pouvait être un des sujets. Il y en a sûrement d'autres.
Il y a d'autres sujets. Par exemple, il y a des dispositions qui je crois que c'est l'article 35, qui étendent les possibilités d'expulsion des réfugiés, c'est-à-dire des titulaires du droit d'asile. C'est quelque chose qui a interpellé un certain nombre de gens. Donc c'est possible que, voilà, le type de disposition qui a été validé. Enfin, et le Conseil constitutionnel dit c'est des dispositions dans lesquelles la fameuse conciliation entre les principes n'est pas déséquilibrée. Donc, peut-être qu'il y aura un recours.
Oui, et il y a aussi, effectivement, le rapport aux traités internationaux, aux conventions internationales que l'on a signées, en l'occurrence, Véronique Champagne-Desplein.
Sur la convention de Genève et tout ça, on est dans un cadre juridique complètement international, supranational même, et
il y a donc des interactions avec le droit français. Oui,
exactement. Nous avons parlé beaucoup de constitution là, mais il y a aussi les compatibilités avec les traités internationaux, la Convention européenne des droits de l'homme, pardon. Mm-hmm. Et donc, il y a aussi ce volet-là qui peut être contesté devant les juges nationaux et éventuellement jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme.
Qu'est-ce que, politiquement, puisque vous êtes député et que vous avez porté ce projet de loi en tant que rapporteur de la loi immigration, Ludovic Mendès, on voit bien, vous nous avez dit toutes les difficultés que vous avez eues à la mettre en œuvre, toutes les négociations qu'il a fallu faire pour que, finalement, ça n'aboutisse pas véritablement à ce que vous souhaitiez. Mais d'une certaine manière, je vais pas parler en termes, c'est pas un match de foot, c'est pas comme si c'était une victoire ou une défaite de votre majorité, mais néanmoins, est-ce qu'il y a là, d'une certaine manière, une sorte d'amertume de ne pas être parvenu à ce que vous vouliez au départ ou au contraire, cela vous va?
Je dirais que globalement, quand on est rentré sur le terrain, moi qui suis rugbyman, je prends plutôt...
Ouais, c'est vous qui prenez la métaphore sportive, c'est pas moi.
Pas de problème, mais non, moi qui suis rugbyman, je dis toujours que quand on rentre dans la mêlée, l'idée c'est de pousser le plus fort possible et de récupérer le ballon. Là, c'est ce que nous avons essayé de faire à plusieurs reprises et le Sénat a fait la même chose de son côté. Pour moi, le plus important, c'était que le texte de départ du gouvernement soit respecté. Les engagements que nous avions sur le fait de mieux protéger les Français face à des ressortissants étrangers que nous ne pouvions pas expulser, c'est enfin mis dans la loi et ça donne des moyens complémentaires au préfet et donc au ministère de l'Intérieur. Le fait de pouvoir donner des titres de séjour à des personnes qui sont là dans notre pays depuis un certain temps, qui commettent pas de méfaits, qui sont intégrées, mais qui n'ont pas de titre de séjour et qui travaillent, avec les titres de métier en tension, c'est une bonne chose aussi. Et puis de mieux accompagner, il paraissait pas normal que, par exemple, les employeurs ne participent pas à l'apprentissage de la langue française, qu'on n'accompagne pas les familles qui vont rejoindre, par exemple, le conjoint ou la conjointe qui est arrivée avant, avec la langue française, un meilleur logement, des meilleurs revenus, ont fabriqué de la paupérisation dans notre pays. Et ça, c'était plus entendable. Et puis, le dernier point, c'est la lutte contre les passeurs. Je veux dire, il y a un véritable volet complémentaire qui renforce les moyens des juges. J'aurais préféré qu'on aille encore plus loin. Pareil pour les employeurs qui exploitent les ressortissants étrangers, qui volontairement les embauchent tout en sachant qu'ils n'ont pas de papier pour les sous-payer, pour leur faire faire des heures de travail qui sont juste hallucinantes. Certaines personnes travaillent 60-70 heures par semaine pour même pas un SMIC. Et c'est ça la réalité aussi de notre pays. Donc le combat que nous voulions mener, nous avons réussi à le mener. On aurait voulu apporter encore des compléments, on voulait apporter des réponses en termes d'intégration, en termes de fermeté. Et puis, on a enfin gagné une bataille que nous avions essayé de mener déjà en 2018, c'est l'interdiction de la rétention des mineurs dans les centres de rétention administrative, qui était juste une aberration française et que nous avons pu porter dans cette loi. Donc ça prouve qu'on a pu apporter des réponses. On aurait aimé aller plus loin, ce qui est normal. Le parlementaire veut toujours améliorer le projet de loi du gouvernement.
Mais vous savez bien néanmoins que vous maniez en faisant cela, disons, une matière fissile et que cela pouvait exploser à tout moment. Vous avez joué, peut-être pas avec le feu, mais en tout cas, joué politiquement avec beaucoup de fantasmes. On voit effectivement qu'aujourd'hui, Jordan Bardella appelle à un référendum sur l'immigration. C'était également le cas de Marion Maréchal, disant que vous êtes bien moqué des Français et qu'il faudrait un référendum et que, tout compte fait, les élections européennes seront une sorte de référendum, un bulletin contre l'immigration, dit Marion Maréchal.
Mais ça, on l'entend depuis longtemps. Et quoi qu'il arrive, quand on parle d'immigration au Parlement, il y a un risque potentiel, surtout avec les forces politiques en présence. Mmh. La réalité, c'est que ce discours-là, ils le tiennent depuis longtemps et ils préparent les élections européennes depuis un certain temps. Oui. Même si le Conseil constitutionnel avait validé l'ensemble du texte, il nous aurait dit que c'était pas assez.
Oui, mais néanmoins, en mettant ce texte en avant, vous preniez ce risque, effectivement, et cette responsabilité que de lancer cette discussion. Jacques Toubon.
Bon, moi,
je voudrais revenir sur le fond. Le constitutionnel a annulé plein de dispositions de ce texte au titre de l'article 45, c'est-à-dire comme cavalier législatif. Mais sans examen sur le fond. Je ne suis plus parlementaire, je ne suis pas au gouvernement naturellement, mais ne faudrait-il pas que les responsables politiques actuels, c'est-à-dire le gouvernement et la majorité relative de l'Assemblée et la majorité du Sénat, ça fait quand même un sacré pouvoir et un pouvoir responsable, ne prennent pas la situation au point où elle en est maintenant, c'est-à-dire envisagent de redéposer un projet sur ces questions d'immigration, sur ces questions d'asile, ces questions de séjour, d'intégration, un projet global, reprendre un certain nombre de dispositions qui étaient dans ce texte, et à mon avis, utiles, et allant dans le bon sens. Donc, repartir à zéro en essayant de mettre cet épisode chaotique qui a commencé dans l'été 2022... derrière bah,
vous dites ça, mais vous êtes un assez fin politique pour savoir que ça n'est pas possible de rayer d'un trait de plume cette histoire
mais je ne crois
pour
pas.
Repartir à
oui,
zéro.
Mais attends, le Conseil constitutionnel nous y a aidés, puisque aujourd'hui un certain nombre de ces dispositions n'existent plus.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Véronique Champagne-Desplats, sur les possibilités de redémarrer à zéro une nouvelle loi sur l'immigration, avec le débat qui va avec, on sait ce que ça veut dire.
Non, redémarrer à zéro, ça me semble compliqué. Bon, sur la question du référendum, là, du point de vue du droit constitutionnel, c'est pas possible aujourd'hui puisque en fait on rentre pas dans le champ de l'article 11. Donc je vois mal comment un référendum peut être organisé en ce moment en l'état actuel, hein, de toute façon. Ensuite, redémarrer à zéro, je sais pas si c'est tout à fait possible, même avec un nouveau gouvernement. Encore une fois, ça, je reviens sur la réponse que j'ai fait tout à l'heure. Je pense que c'était on a peut-être raté le temps du débat.
Voilà. Bah, pas celui-ci, en tout cas.
Et pas celui-ci, voilà.
De votre côté, Ludovic Mendès, ce qui était proposé par Jacques Toubon, ça vous paraît totalement inimaginable. Vous voulez pas vous remettre dans ce guépier une deuxième fois en tant que rapporteur d'une nouvelle loi sur cette question-là?
C'est pas une histoire de guépier. Je pense qu'on avait un engagement, on l'a tenu et maintenant il est acté. Le but, c'est d'appliquer cette loi. On veut pas remettre une pièce dans la machine. On veut pas continuer à tendre notre pays sur ces débats-là, surtout avec une extrême droite aussi forte. Et désolé, monsieur le ministre, mais aujourd'hui, il ne reste plus parfois qu'une feuille de papier à cigarette entre certains républicains et le Rassemblement national. Il faut aussi l'acter. On a pu voir tout à l'heure.
Vous avez tout à fait raison. Et
la réponse de François-Xavier Bellamy était identique à celle de Jordan Bardella. Et c'est de plus en plus choquant. On a une dérive aussi politique parce qu'on est persuadé que c'est une forme de populisme qui permettra de gagner. Mais à force de ne plus prendre de la hauteur et de plus avoir cette sensation de responsabilité envers la nation, on fait aussi n'importe quoi. Le seul débat qu'on aura sûrement de notre côté, c'est sur l'AME parce que c'est un engagement. Étant donné que le rapport qui a été fait...
L'aide médicale d'État,
qui a été fait par M. Stefanini et M. Evin est quand même complet et nous permet d'apporter des réponses adaptées parce qu'il y a des problèmes dans l'application de l'AME. Ça, c'est une réalité qu'on va avoir comme débat.
Merci beaucoup, monsieur le député Ludovic Mendès. Merci à vous, Jacques Toubon, ainsi qu'à Véronique Champagne-Desplats, professeure en droit public à l'Université de Paris-Nanterre et qui a dirigé avec Jean-Marie Danquin « Démocratie et constitutionnalisme, retour critique » chez Marre et Martin. Le temps du débat était préparé ce soir par Fanny Richer, Roxane Poulin, Mathias Mégy, Nina Richard, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Ludovic Auger. Merci d'avoir éclairé nos auditeurs sur ces questions constitutionnelles qui sont si complexes aux oreilles de chacun et chacune d'entre nous.